Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a ce que s'appelle une alliance. Il y a entre mari et femme, il y a l'alliance. Il y a dans d'autres domaines qu'on fait des alliances. L'alliance, c'est quelque chose qui est très fort. Si on prend encore une fois l'exemple des mariages, il y a deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment, mais ils veulent se marier, ils vont se marier. Mais on sait que la vie, dans la vie, il y a aussi des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on ne prévoit pas maintenant. Donc, à la limite, on peut vivre ensemble tant que ça marche. Et une fois que ça ne marche pas, on change. C'est que malheureusement, ça se passe aujourd'hui dans plusieurs civilisations. Mais il y a les notions de mariage qui restent encore, heureusement. L'idée du mariage, c'est qu'on s'engage. Ça veut dire, tout d'abord, on s'engage et on espère, on voit la vie ensemble. Ces deux personnes, ils voient la vie ensemble pour toujours. Ça, c'est le but du mariage. Et donc, on s'engage. Dans le contrat de mariage, il y a plusieurs choses. Mais l'idée de général, l'esprit, c'est que on s'engage. Ça veut dire là, il va rester avec l'autre. Il y a aussi les parties de sinon. Qu'est-ce qui va se passer si ça ne va pas? Mais c'est plutôt le si oui. Ça veut dire qu'il y a cette vision au moment du mariage que ça devrait aller et ça va aller. Et on espère ce qu'on on souhaite dans le système ou bien l'idée juive, un système binyan adéad, binyan adéad, ça veut dire une construction éternelle, parce que c'est ça qu'on espère, que cette construction que c'est le mariage soit éternelle. Alors, en ce moment, il y a donc ce qui s'appelle l'alliance. Mais juste avant, justement, dans le système du soudaïsme, il y a ce qui s'appelle la ktouba. Dans la ktouba, alors, il y a l'engagement, mais à côté de ça aussi, on parle de sinon. Si ça ne va pas marcher, c'est que l'homme, il doit payer à la femme. Mais il y a bien sûr surtout ce que si ça va marcher, donc ce que la femme elle doit au mari, c'est pas marqué clairement, mais c'est surtout ce que le mari il doit à la femme. Mais comme on a dit, c'est l'idée surtout de si oui, ça veut dire qu'on espère que ça va marcher, et c'est ça une idée d'alliance. Pourquoi faire l'alliance comme on a posé la question avant, qu'on se met ensemble. Si ça marche, ça marche. Sinon, on continue plus loin avec quelqu'un d'autre, etc. Non, il y a quand même ce système de s'engager. Et quand on parle de s'engager, ça veut dire que je sais qu'il peut y avoir des problèmes. Et pourtant, on s'engage. On s'engage, ça veut dire que malgré tout, même si qu'il y aura des problèmes, même si que d'un coup, il y aura des surprises, même si qu'il y aura des choses que je ne vois pas maintenant. Maintenant, tout va bien, mais à ce moment, il y aura peut-être quelque chose qui ne va pas aller. Quand même, on s'engage. Alors, où est-ce que viennent les divorces? On peut justement dire que ça dépend combien est grand les surprises. Ça veut dire jusqu'à où on n'a pas imaginé. Pour chaque petite chose, si on va divorcer, c'est pas logique, c'est pas humain, c'est rien du tout. Je sais que chez mon beau-père, il était le rav de la communauté Lubavitch en France, et il a raconté que très souvent, la veille de Pessah, la fête de Pessah, donc la fête de Pâques juive, on sait que la veille de Pessah, il y a beaucoup de travail et donc beaucoup de tensions. Surtout si les enfants sont à la maison, il n'y a pas l'école, en tout cas quelques jours avant Pessah. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de préparation, et donc il y a beaucoup de tensions. Et à ce moment-là, parfois ça craque. Et la femme ou le mari, il dit, si c'est comme ça, on va aller chez le rabbin pour parler de divorce. Et c'est parfois, c'est arrivé comme ça. Ils sont arrivés chez le rabbin. Et donc, dans notre cas, c'était mon beau-père. Il les a écoutés. Il n'a pas dit non. Il a dit, vous savez quoi? Continuez à faire la fête de Pessah ensemble, revenez après Pessah. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas revenus après Pessah. Parce que c'était une difficulté de moment et il faudrait passer ce moment pour remarquer que finalement, non, on n'est pas aussi mal que ça. Mon conjoint, il n'est pas aussi mauvais que ça, ou bien on s'entend bien, c'était un moment de crise qu'on passe. Il y avait, dans les Talmud, on trouve ce que s'appelle Get Mekushar, ça veut dire un acte de divorce, mais c'est un contrat de divorce, mais il était difficile à ouvrir. Le but, il y avait certaines personnes, donc souvent c'était les Cohen qui parfois ils étaient en colère. Des gens qui étaient en colère, on les a donné ces divorces, actes de divorce, en espérant que ça va les décourager. Le temps, parce que parfois on est en colère, on fait des choses, et quelques minutes après on regrette. Alors, on le fait difficilement qu'une fois qu'ils comprennent les bêtises, l'erreur qu'ils ont fait, qu'ils regrettent. En tout cas, ça, c'est clair que dans la vie, il y a très souvent des décisions très faciles, très rapides qu'on prend. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un engagement, de ne pas prendre cette décision si rapidement, on s'engage. Mais s'il arrive des choses très très graves entre les deux, alors à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de divorcer. Mais en vérité, le judaïsme essaie d'éviter tout cas de divorce. Pas seulement une divorce légère et facile, même aussi une divorce... Oui, il y a des choses, je n'ai pas imaginé que ça va arriver... Maintenant, mon conjoint, ma femme, mon mari, c'est pas le même de ce que je l'ai connu il y a 10 ans, il y a 20 ans, donc il faut pas, on a envie de ne pas continuer dans le même chemin. Alors même ça, on essaye d'éviter, parce que parfois, très souvent, il y a quelque chose, c'est vrai que maintenant ça va pas, mais très souvent on peut l'arranger aussi. Le fait même, alors là il faut voir qu'est-ce que c'est, quelle est la vision des mariages en général. Très souvent, les mariages, c'est parce que je trouve cette personne beau, cette personne belle, cette personne intelligente. En fait, chacun a sa raison pourquoi, qu'est-ce qu'il a trouvé dans son conjoint. Alors, beau aujourd'hui, pas forcément beau le lendemain. Donc, alors, il y a des changements. Mais au-delà de ça, très souvent, on sait que c'est vrai, la beauté, l'intelligence et beaucoup d'autres qualités sont de vraies qualités, mais à côté de ça, il y a aussi quelque chose de fond. On est vraiment attaché, ce qu'on appelle parfois l'âme sœur. Il y a un attachement, peut-être pas visible, qui dépasse la logique. Et si je sais donc que c'est vrai que j'aime cette personne pour telle et telle et telle qualité, ou pour telle et telle et telle raison, mais au-delà de ça, il y a encore quelque chose. Donc c'est pour ça que il y a quelque chose d'invisible ici. Alors à ce moment-là, ça ne veut pas dire que je vais me marier avec un invisible. Il faut quand même passer par la logique et par les sentiments. Mais très souvent, il y a des personnes qui essayent de faire des shidduchim, ce que ça s'appelle, de mariage, de conseiller à tel, d'aller avec tel, de se marier avec tel, parce que vous vous ressemblez beaucoup. Voilà, ils ont des qualités comme ça. Par contre, tel et tel, on ne voit pas les rapports. Et finalement, ça tombe justement autrement. Des personnes qu'on a l'impression qu'il n'a pas la qualité de l'autre. En tout cas, il se ressemble pas. Et pourtant, la grâce, là, il trouve la grâce avec là et pas avec l'autre. Et donc, quelque part, ça dépasse la logique. C'est quelque chose qui est au-delà de la logique. On a d'autres exemples, on peut donner peut-être l'exemple des couleurs. On sait que là, il aime cette couleur, l'autre, il aime cette couleur. La couleur, ce n'est pas quelque chose qui passe par la logique. C'est... Il y a parfois, on voit quelque chose de très, très beau, ça frappe. C'est magnifique. Il y a quelques d'autres qui trouvent d'autres choses qui sont beaux, d'autres couleurs qui sont beaux. Et c'est intéressant, de goût et de couleur, on dit qu'on ne peut pas discuter de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, peut-être, ça peut être un exemple. Il y a la logique, il y a le sentiment, mais il y a quelque chose qui dépasse au-delà de toute logique. Et très souvent, quand il s'agit d'un mariage, alors c'est vrai que j'aime cette personne, j'apprécie cette personne pour telle et telle qualité, mais il y a quelque chose au-delà de ça. Seulement que ça passe quand même par la logique, donc la logique plus les choses profondes, ça fait un mariage. Alors c'est pour ça que parfois, si la logique ne va pas pour une raison ou pour une autre, il faut attendre encore, voir, essayer d'arranger ça, parce que le lien est beaucoup plus profond. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette notion de engagement, cette notion d'alliance. On peut dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça change. Aujourd'hui, on est dans un monde où on voit mal les notions d'alliance parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dans nos systèmes, nous, normalement dans le système juif, on essaye à tout faire de respecter cette alliance en sachant que malgré tout, on peut arranger. Il faut trouver un arrangement, même dans des moments difficiles. Seulement dans les cas où c'est vraiment pas possible, alors à ce moment-là, c'est pas possible, mais dans la majorité des cas, apparemment, c'est oui possible. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'idée de l'alliance et engagement, c'est que malgré ce qu'on voit, on s'engage. Parce qu'on sait qu'il y a un attachement profond. Dans la Torah, on trouve des notions de engagement et d'alliance. Tout d'abord, on sait qu'il y a ce qui s'appelle la circoncision. Pardon. C'est une notion d'alliance, comme ça il est marqué dans le Torah, c'est une alliance. Ça veut dire qu'on s'engage à être juif, en tout cas dans notre cas à nous. Il s'agit d'un enfant qui ne comprend pas encore, justement. L'engagement fait par ses parents, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de questions, justement, pourquoi pas attendre que lui va décider, pourquoi prendre la décision avec lui. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une idée d'engagement, d'alliance, que malgré tout, on reste ensemble. Ça veut dire que je reste juif. Et ça, donc, cette sorte d'alliance, on peut pas, normalement, on peut pas se séparer d'elle. Ça fait dans le chair. Mais il y a d'autres sortes d'alliances qu'on trouve. On trouve dans la Torah que Dieu, donc, il y avait le déluge pour la raison que l'humanité était très mauvaise. Ils ont perdu toute notion de savoir-vivre. De vol, de viol, de terrible, de toutes sortes de choses mauvaises. Et à ce moment-là, Dieu décide de détruire le monde par le déluge. Et ensuite, après le déluge, Dieu fait une alliance avec le monde qui ne va plus détruire le monde. Et qu'est-ce qu'il donne comme signe d'alliance? C'est l'arc-en-ciel. Alors là aussi, il faut comprendre, Dieu, il s'agit de Dieu, ça ne s'agit pas de quelqu'un qu'il a un esprit léger, il décide en 5 minutes de faire quelque chose, et ensuite il décide en 5 minutes de tout détruire, non, ça, j'ai de Dieu quand même. Et pourtant, on trouve ici l'idée d'alliance. Alors, c'est un sujet qu'il faut expliquer, c'est expliqué ailleurs, mais juste donner cette idée que Dieu, il a pris une alliance avec le monde, il a donné une alliance, il a donné un engagement qu'il ne va plus détruire le monde, en tout cas, est-ce qu'il ne va pas du tout détruire le monde ou... Alors normalement, il y a des différentes opinions. Et nous, on suit cette opinion chassidique que le monde ne va jamais être détruit, pas seulement par le déluge, mais en général, il ne va plus être détruit, en tout cas le monde entier. Il y a des endroits où il est marqué que le monde il va être détruit. D'ailleurs, le monde utilise, on utilise les notions de, du fin du monde. Il y a beaucoup de. En fait, il y a quelques visions, de, selon la vision chassidique. La destruction du monde, ce n'est pas une destruction réelle, c'est justement qu'il change de forme. Ça ne va pas être le monde qu'on connaît. Mais c'est un sujet à part. Ce qui nous intéresse, c'est que Dieu il a pris un engagement. Ça veut dire que même si qu'il y avait des raisons hier, ou bien même si qu'il y aura des raisons que Dieu il aurait pu dire « je ne veux plus de ce monde », et c'est arrivé déjà. Quand même, il prend une alliance, il fait une alliance avec le monde qu'il n'y aura plus ça, plus le déluge. Et là aussi, on trouve des alliances avec, dans notre paracha d'ailleurs, on trouve avant, il y a une alliance avec le peuple juif, que d'une part, le peuple juif, ils doivent respecter la Torah. D'une autre part, Dieu, il prend d'alliances. Il y a l'alliance, elle prend plusieurs facettes. Mais parmi les facettes, c'est que dans notre paracha, on est dans la paracha de l'alliance. C'est une deuxième alliance. Il n'y a pas en vérité une deuxième alliance. C'est une alliance renforcée. Dans le même sens d'avant, mais c'est une alliance renforcée. Et l'idée, c'est que malgré tout, on reste. L'alliance, elle garde. Alors, c'est vrai qu'il y avait malheureusement des massacres, des problèmes, que quelque part, on se demande comment ça se fait. Mais après tout, le peuple juif reste. Donc, l'alliance reste. Ça veut dire que l'attachement avec. Personne n'arrive à effacer le peuple juif parce qu'il y avait une alliance. Donc, ça, c'est un petit peu la notion de notre paracha. Une alliance qui dépasse la logique. Là aussi, on a besoin d'explications. C'est des sujets assez difficiles. Mais ça, c'est notre sujet de notre paracha. C'est à la suite de cette paracha de la semaine dernière qui était aussi compliquée. Et donc, il est marqué qu'il parle de destruction de la terre d'Israël. Et les gens, ils vont s'étonner comment ça se fait. Et ils vont le lier avec le fait qu'on a abandonné le judaïsme. Mais après, il y a une notion que finalement, il y aura un retour. Ça, c'est un petit peu le sujet de notre paracha. Il y aura un retour d'un côté, donc il y aura un retour de l'autre côté. Mais de toute façon, ce retour, il va être parce qu'il y a une alliance. Cette paracha, on lit avant Rosh Hashanah. Donc, toujours on lit cette paracha de Nitzavim avant Rosh Hashanah. Parfois, on lit Nitzavim Vaelech, deux parashiot. Mais lorsque, comme cette année, que Rosh Hashanah tombe Shabbat, ou lorsqu'elle tombe, le jeudi, alors à ce moment-là, les deux parashiot Nitzavim et Vaelech, ils sont ensemble. Alors cette paracha, donc, la paracha Nitzavim, elle est toujours avant Rosh Hashanah. La paracha Vaelach, par contre, parfois elle peut être après cette année. Les deux parachutes sont avant Rosh Hashanah. Il y a un rapport. Là aussi, les notions de Rosh Hashanah, c'est aussi une notion d'alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui sont relativement logiques. Il y a des choses qu'on fait qui sont carrément logiques. En vérité, les mitzvot qu'on fait, les lois de la Torah qu'on fait, ils sont. En fait, il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont carrément logiques, on comprend bien. Il y a ceux qu'on comprend relativement. Il y a des choses qui ne sont pas. On ne nous a pas donné leur explication. Mais il y a des mitzvot qui sont un petit peu différents, hors série, si on peut dire. Les mitzvot de. Rosh Hashanah, la mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. On sonne le shofar. Qu'est-ce que c'est la sonnerie du shofar? La Torah ne nous explique pas. Elle nous dit juste, faites comme d'ailleurs beaucoup d'autres mitzvot que la Torah ne nous explique pas. Et ensuite, la recherche, les gens qui ont recherché, essayer de comprendre. Il y a beaucoup d'explications. Je pense qu'il y avait un sage qui s'appelait Rav Saadia Gaon. Il a nommé sans explication de shofar. Mais d'une façon générale, il y a ce sens qu'il y a deux sortes d'alliances, comme on a parlé tout à l'heure, ou bien deux sortes plutôt de relations. Il y a une relation logique, il y a une relation, on peut l'appeler aussi partielle. Ça veut dire que je m'attache à tel détail et mon détail, mais en fait, ce détail chez moi se détache avec ce détail chez lui, chez Dieu. Donc l'attachement passe par des détails. Ensuite, il y a la sonnerie du chauffard, que la sonnerie du chauffard, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose de très très général. Parmi les explications qu'on dit que c'est le chauffard, alors, il y a toute l'année. Et il y a Rosh Hashanah. Toute l'année, on a un engagement qu'on prend. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Parfois, on fait mieux, parfois, on fait moins bien, mais ça, c'est toute l'année. Rosh Hashanah, c'est un engagement général. Donc, les jours d'engagement, quelque part, qui dépassent. Donc, comme on a dit, si on revient à l'idée d'engagement ou bien l'idée d'alliance, qu'est-ce que c'est une alliance ? C'est que normalement l'alliance passe par un acte. Un acte qui peut être banal ou non, mais c'est un acte très précis. Et cet acte va assurer que l'ensemble va marcher. Si on va dire comme ça qu'on parle de mariage, dans le mariage, dans la vie des mariages, il y a beaucoup de détails. Et il y a beaucoup d'années normalement. Et c'est celui qui tient cet engagement de longues années. Donc, engagement dans beaucoup de détails, c'est un petit anneau, c'est un petit bague. Donc, la bague, par la bague, il y a l'alliance qui passe. Donc, la bague, c'est un petit détail. Et pourtant, lorsqu'on voit cette bague, on se dit, ah, c'est l'alliance. Ça veut dire que c'est ça qui est. C'est pas seulement un cadeau de mariage ou d'autres choses, c'est une alliance. Donc, l'alliance, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? L'alliance, c'est quelque chose qui dépasse la logique, mais ça passe quand même par un acte ou par un objet. Cet objet nous rappelle l'engagement. Donc, alors, quelque part, un petit acte englobe en lui toute une idée. Et j'ai entendu une histoire d'un couple qui était très bien au début, mais après, avec les années, il y avait des affrontements à droite et à gauche. Donc la femme, elle va voir une conseillère conjugale. Elle lui dit, ça y est, il n'y a plus rien avec mon mari, il n'y a plus de sentiments. On va tout casser, on ne veut plus vivre ensemble. Et bien sûr que chez nous, on essaie toujours de... On essaie, en tout cas, de sauver le peuple. Et la dame, elle a posé des questions, elle a essayé de voir, non, c'est tout est fermé, il n'y a pas de possibilité. Donc alors, elle demande à la dame de lui montrer les photos de mariage, un petit peu oublier ses chagrins, montrer. Donc la femme, elle ouvre des albums, il y avait... Elle commence à avoir de la nostalgie. Voilà, son père qui n'est plus là, sa mère, telle personne, l'autre personne. Elle raconte, elle montre cet album, elle raconte un petit peu sa vie, et comment c'était magnifique, comment c'était extraordinaire, et là, elle voit telle personne, il y a ses yeux qui brillent, etc., etc. Et à ce moment-là, la dame, donc la conseillère, elle essaye de lui poser la question, en fait, de le pousser à dire, donc, c'est des sentiments ou bien des moments que vous aimeriez retrouver. Là, d'un coup, même si que quelques minutes après, elle a dit qu'il n'y a plus rien, plus de sentiments, mais elle aimerait bien retrouver ces sentiments d'il y a 5, 10, 20 ans. Seulement qu'aujourd'hui, tout est éteint. Mais la dame, donc, elle est arrivée à lui retrouver ce sentiment caché qu'elle avait à l'époque. Et à partir de là, elle arrivait à construire. Et finalement, Baruch Hashem, le couple a repris. Et ils ont retrouvé leur schéma conjugal et leur schéma d'amitié et d'amour. Et pourquoi? Parce qu'on arrivait à trouver les parties cachées et pas seulement les parties révélées de la vie qui parfois nous cachent ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on dit parfois que les arbres cachent la forêt. Ça veut dire que parfois par les détails de la vie, et on cache l'essentiel. Et parfois il faut retrouver ce sentiment profond qu'on a perdu par le détail de la vie. Ça, c'est un petit peu l'idée de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, toute l'année, on a nos occupations. Parfois ça va, parfois ça va moins. Parfois on se comporte comme il faut, parfois moins. Mais les jours de Rosh Hashanah, on essaie de trouver ces sentiments. Alors, une petite encore anecdote, histoire, qui vient de Baal Shem Tov, qui raconte qu'est-ce que c'est le shofar. Donc, il dit comme ça, il raconte une histoire avec un père qui voulait envoyer son fils. Donc, c'était un père roi. Et le roi, il avait beaucoup de... C'était un grand pays avec beaucoup de provinces. Et il y avait des provinces plus classiques. En fait, il y a des provinces un petit peu violentes. Et le roi, il a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans ses villes, dans ses provinces. Il n'arrivait pas. Les gens étaient assez déconnectés de la royaume, du royaume, pardon. Et il ne savait pas qu'est-ce que c'est le savoir-vivre, etc. Il a envoyé beaucoup de gens pour essayer d'échanger les données, mais il n'a pas arrivé. Finalement, il avait l'idée d'envoyer son propre fils, qui était un homme intelligent. En même temps, il savait comment faire, il savait comment parler aux gens, comment convaincre les gens. Donc, il envoie son fils vers cette mission d'essayer de changer la façon de vivre de ces pays, de ces provinces. Et le fils, il arrive, il essaye, il voit que ça marche pas, les gens, ils parlent pas de la même langue qu'eux. En tout cas, peut-être pas langue, mais aussi, il se comprend pas du tout, c'est pas du tout ce qui est bon chez là, c'est pas bon chez l'autre. Donc, le fils, il décide de changer de méthode. Il va vivre un certain temps comme eux. Donc, ils vont lui faire confiance, il va comprendre un petit peu la folie. Donc, qu'est-ce que c'est bon il y a dans la folie? Et avec le temps, une fois dedans, il pourra changer les gens par l'intérieur. Le problème, c'est qu'il était, il est tellement pénétré dans ce système que lui-même, il a changé. Et il est devenu pur que, il a pris goût dans l'immoralité. Donc, il était parmi les pires personnes là-bas. Donc, d'un coup, il a perdu tout ce qu'il avait. Et il est devenu... clochard, quelqu'un qui l'a plu, on a oublié d'où il vient, il a oublié d'où il vient, il devient carrément quelqu'un immoral. Et donc, le roi, il veut savoir ce qui se passe avec son fils, il n'y a pas de nouvelles. Donc, le roi, des années après, il décide d'aller sur place. Lorsque le roi, il vient, il y a quand même, c'est le roi, donc il y a toutes ces cérémonies et le roi, il passe. Avec sa voiture, avec sa charrette, je ne sais pas ce que c'était, dans la ville principale. Ensuite, il a un objet d'essayer de trouver qu'est-ce que son fils est devenu. Mais tout d'abord, on reçoit le roi et tout le monde se réunit pour voir le roi. Ils n'ont jamais vu le roi, ils n'ont jamais vu des choses aussi classes que ça. Et il y a parmi les personnes un clochard qui veut savoir qu'est-ce qui se passe. On lui dit oui, c'est le roi qui est venu. Alors là, d'un coup, le clochard, il s'est dit, mais le roi, c'est mon père. Et les gens, ils sont comme ça, se moquaient de lui. Quel père, toi, le clochard, tu es le fils de telle personne, de roi, c'est pas possible. Donc, on l'a pas laissé avancer vers le roi. Et le roi, il avance, et on ne le laisse pas. Il commence à pleurer, il crie « Papa, papa !» Il a oublié même la langue du pays de son père. Donc, il a commencé à crier « Papa !» ou même c'était un cri simple. Et le roi, il entend la voix de l'enfant. Et il prend vers lui, il l'amène chez lui, et bien, finalement, il retourne à être ce qu'il était avant. Alors, on donne cette image que nous, on oublie parfois la langage, le langage, ce qu'il faut faire, ce qui est bon à faire. Mais il y a une sorte de langage qui reste, le langage profond, papa. Et le chauffard, ça représente cette idée profonde. C'est pas, on peut pas, on peut. Mais normalement, on fait pas dormir façon avec ces chauffards, c'est des voix simples, assez simples. Parce que parfois, la simplicité, c'est quelque chose qui est plus profond. Donc, alors, c'est ça un petit peu l'idée de Rosh Hashanah, trouver les simples, les profonds, et à partir de là, on commence notre engagement. En tout cas, notez que Rosh Hashanah, donc cette année, ça va être ça va être la semaine prochaine, il me semble les 12, donc ça va être vendredi soir 12, 13, 14 du mois de septembre. Essayez de vous renseigner autour de vous pour participer à ce Rosh Hashanah cette année, que ça tombe Shabbat, donc on va sonner le shofar le dimanche. On va peut-être la semaine prochaine expliquer pourquoi on ne sonne pas le shofar le Shabbat. Mais en tout cas, essayez de participer à ce et Rosh Hashanah, que c'est un jour très très profond, mais cette profondeur passe par un acte très simple, le shofar. Alors participez à cet engagement, à cette alliance, que c'est un jour aussi on demande à Dieu que l'année prochaine soit bonne et douce pour chacun parmi nous, et que ce soit une année de libération, liberté et toutes les bonnes choses qu'on souhaite. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Et bien sûr, Shana Tova Metuka, ce qu'on souhaite, une bonne et douce année.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.